Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La position de l'OIA est à la fois claire et simple. Nous soutenons entièrement la lutte du peuple africain, de la majorité du peuple de la Rhodésie du Sud. Et nous ferons tout ce qui dépend de nous. Et cela ne doit être un secret pour personne. Nous sommes engagés, et engagés sans réticence, engagés sans réserve, à faire en sorte que le pouvoir à Rhodésie du Sud, comme dans le reste du continent africain, revienne à la majorité du peuple.
Symbolisé pendant 8 ans le visage de la diplomatie africaine, après avoir représenté le continent dans toutes les institutions internationales, Diallo Telli, qui a été remplacé à la tête de l'Organisation de l'Unité africaine, dont il était le premier secrétaire général, est rentré chez lui, en Guinée. Le président Sékou Touré, qui ne l'a jamais vraiment aimé, en tout cas qui s'est toujours méfié de lui, en a fait son ministre de la Justice. Mais Diallo Telli ne peut plus sortir du pays. Il est en quelque sorte prisonnier dans ce vaste territoire où tous ses mouvements sont surveillés, ceux de sa famille aussi. Suite et fin aujourd'hui de la série que nous consacrons à ce personnage, dont le nom suscite encore des interrogations dans toute la classe intellectuelle africaine. En 1976, Diallo Telli, qui est depuis 4 ans ministre de la Justice du gouvernement de Guinée, est invité à dîner à la présidence avec le chef de l'État. Au bout de la soirée, le président Sékou Touré lui dit ces mots que reprend pour nous son épouse Kadidia.
Diallo Telli, moi, on ne me surprend pas. Et Telli lui aurait demandé, mais président, qui veut te surprendre? Il n'y a pas eu de réponse à cette question. Il lui a dit simplement, allez, au revoir Telli. Donc Telli est rentré à la maison à minuit, on est venu le chercher à une heure et demie.
L'ancien secrétaire général de l'OUA va donc rejoindre de nombreuses autres personnalités guinéennes enfermées dans la sinistre prison du camp Boiro. Il occupe la cellule numéro 54. Dès son arrivée à la prison, Diallo Telli est soumis à des interrogatoires intensifs et à des séances de torture. Il faut qu'il parle. Un comité révolutionnaire, en gros une commission d'enquête, a été mise sur pied. C'est elle qui procède aux interrogatoires. Elle suggère également aux suppliciés des aveux écrits. Pendant quelques jours, Diallo Telli va résister. D'autres prisonniers, comme Amadou Diallo Portos, vont même lui passer un message.
Qu'on lui avait fait transmettre des commissions pour lui dire qu'il fallait qu'il résiste. Franchement, je n'étais pas très sûr de ce que je disais, parce que moi, j'ai eu l'expérience de la torture. Je sais qu'on ne peut pas résister à la torture. D'abord, moi j'ai fait 5 jours de diète d'accueil et on m'a amené à la cabine. On vous prend les deux bras, on les ramène derrière le dos, on tire, on attache au niveau des coudes, on tire la corde jusqu'à ce que vos coudes se rejoignent. À ce moment, on vous attache les pieds avec la même corde. On passe par le parapet, on tire, vous êtes soulevé de terre. Et maintenant, on prend la gégène et on commence à tourner. On vous met, si vous avez la chance, juste au bas-ventre, si vous n'avez pas la chance, dans les parties génitales même. Et on commence à tourner. Mais je vous assure que c'est difficile d'y résister. Je n'ai vu qu'un seul dans tout le parcours de Boiro qui ait pu résister et qui ait survécu. C'était un Libanais du nom de William Gemayel. Les autres, ceux qui ont résisté, sont soit morts à la torture, tels que Paul Stephen, soit ils ont fini par craquer. Moi, je vous assure qu'à la fin, j'étais prêt à tout dire, à dire n'importe quoi. Fadel Gusen, quand on lui a envoyé la décharge de courant, il a crié, il dit arrêtez. On lui dit non, qui t'a recruté? Il a dit c'est Arsène Lupin. Et on a mis Arsène Lupin. Et ce type a été...
Il ne savait même pas qui était Arsène Lupin.
Il ne savait pas, il ne savait pas. Il paraît qu'à la commission, Ismaël a enlevé Arsène et a laissé M. Lupin. Quand il me torturait, il me connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mon petit, je te connais bien. Je prenais la garde chez toi, tu étais gentil. Quand tu venais la nuit tard, tu me disais d'aller nous coucher. Il faut leur dire la vérité, sans cela, ils vont t'esquinter et ils pourront plus te libérer. Et peut-être même tu vas mourir ici. Il dit, il faut leur dire la vérité. Je dis, mais j'ai dit toute la vérité, je ne connais rien de tout cela. Il dit, non, c'est pas cette vérité qu'il faut dire. Il faut leur dire la vérité du ministre. C'est-à-dire la vérité que le ministre veut entendre.
Le 30 juillet 1976, Diallo Télé va donc craquer et accepter de rédiger puis d'enregistrer ses aveux. La vérité du ministre. Quelques jours après, la radio nationale guinéenne diffuse ses premières confessions. Il reconnaît sa participation à une tentative de putsch contre le président Sékou Touré. Mais ses premiers aveux ne sont pas suffisants pour le président Sékou Touré. Pour lui, il n'a pas tout dit. Il faut le faire parler à nouveau. Après deux nouvelles semaines de torture, le 22 août 1976, le peuple guinéen peut à nouveau écouter les aveux de Diallo Télé, l'ingrat comme l'appelle le président Sékou Touré. Petit extrait.
Je présente de sincères excuses au peuple de Guinée, à son parti État et à son guide. Je sollicite la clémence du responsable suprême de la révolution pour me permettre de me racheter par mon travail et mon dévouement et me permettre enfin de payer une partie de mes dettes au peuple de Guinée. C'est à Washington, en 1971, lors d'une mission de l'OUA aux États-Unis, que le secrétaire d'État américain Henry Kissinger m'a demandé, au cours d'un entretien spécial, ma collaboration en vue de défendre et de préserver les intérêts américains en Afrique, et particulièrement en Guinée. En retour, il m'a promis, dans la plus grande discrétion, la solution de toute difficulté que je porterai à la connaissance de son gouvernement. Dans l'immédiat, il promit l'assistance de son gouvernement pour ma réélection à Rabat en juin 1972. Par la suite, l'ambassadeur Sherman, du Libéria, m'a contacté à Conakry pour le compte des États-Unis. Mon recrutement à la CIA remonte à fin novembre 1974, après mon retour d'une longue cure médicale de près de 3 mois en Roumanie. L'ambassadeur Sherman, multipliant ses marques de sympathie et d'intérêt, ainsi que ses visites à mon domicile, me proposa de m'aider à améliorer mes conditions matérielles et autres dans la plus grande discrétion. À cette fin, il m'offrit d'utiliser mon expérience et mes relations pour aider les États-Unis à protéger leurs intérêts nationaux en Guinée et en Afrique. J'ai accepté cette proposition à la condition expresse que la coopération envisagée soit entourée de la plus grande discrétion. Dans ce cadre, j'ai fourni au gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de Sherman, des renseignements réguliers sur les grands événements de la vie intérieure guinéenne, ainsi que sur sa politique africaine et internationale. Après le renversement de la situation, je devais assurer les fonctions de chef d'État. Mais, par précaution, j'ai préféré confier la direction du pays à un état-major militaire, compte tenu des aléas et des incertitudes sur le succès final. Seule, en effet, une telle précaution pouvait permettre de faire volte-face et, au besoin, d'amoindrir les conséquences du désastre en cas d'échec. Cette technique, qui permet aux auteurs réels de coups d'État de rester au début dans l'ombre, a été souvent utilisée avec succès lorsque le renversement de la situation demeurait un grand point d'interrogation, quelles que soient les précautions prises, ce qui est indiscutablement le cas en Guinée.
Tierno Diallo Télé, lorsque vous avez écouté ces aveux de votre père à la radio, reconnaissant qu'il travaillait pour la CIA et qu'il préparait un putsch, qu'est-ce que cela vous a fait? Quelle a été votre réaction?
On a éclaté de rire quand on a entendu la bande la première fois, malgré le dramatique de la situation, parce qu'il a trussé sa soi-disant déclaration d'erreur grossière, exprès. Il prétend dans l'enregistrement qui est fait que chez nous, à Mali, et c'est sa femme qui est de Mali, lui n'est pas de Mali. Donc ça déjà, c'est inimaginable dans la bouche de mon père. Deuxième erreur grossière qu'il a ajoutée, il annonce que le secrétaire d'État Henry Kissinger, il a incorporé dans la CIA. Malheureusement pour le régime de Sékou Touré qui a concocté ces mensonges, Henry Kissinger était National Security Advisor, conseiller à la sécurité nationale à l'époque. C'est William Rogers qui était le secrétaire d'État des États-Unis quand mon père était secrétaire général de l'OUA. Et ça, les Guinéens, qui sont souvent des grands ignorants de l'histoire, l'ignoraient complètement. Donc, il nous envoyait un message de sa cellule. ou disant que ces déclarations n'étaient pas volontaires. Ils ne pouvaient pas faire des erreurs aussi grossières.
C'est vrai que ceux qui ont aidé Diallo Telli à rédiger cette nouvelle confession n'étaient pas très très futés sur ce coup, comme le fait d'indiquer qu'il a rencontré Henry Kissinger en 1971. À cette date, il n'était pas encore secrétaire d'État. Il ne sera nommé à ce poste qu'en 1973. Et puis l'Afrique n'était pas vraiment le rayon de Henry Kissinger pour qu'il consacre un entretien spécial à recruter Diallo Telli pour la CIA. Monsieur André Lévin, vous qui avez par la suite rencontré Henry Kissinger, qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de cette accusation ?
J'ai essayé d'obtenir de Kissinger un témoignage là-dessus, mais malheureusement Kissinger n'a jamais répondu. Alors est-ce que c'est une manière pour lui de ne pas vouloir prendre position ? Je ne sais pas.
Monsieur André Lévin, vous qui étiez l'ambassadeur de France en Guinée à cette époque et qui était même un proche de Sékou Touré qui vous recevait régulièrement. Dans ses aveux, vous avez été également mis en cause. On vous accusait d'être mêlé à ces complots. Vous nous avez raconté votre entrevue avec le président Sékou Touré à qui vous avez expliqué que c'était faux et qui ne vous a pas cru, pensant même que la démission de Chirac en 1976 était la conséquence de son soutien à l'opposition guinéenne de l'extérieur. Giscard lui aurait réclamé sa démission pour cela, selon lui. Or, on sait que ce n'est pas pour cette raison qu'il a démissionné Chirac. Mais en réalité, est-ce qu'à un moment, la France n'a pas vraiment pris contact avec Diallo Telli pour remplacer Sékou Touré, qui n'était pas très arrangeant et qui était versatile avec Paris ? Après tout, Diallo Telli avait le profil qui convenait. Il était francophile et moins paranoïaque. Le pays qui aurait pu prendre contact avec lui, c'était d'abord la France, il faut le reconnaître.
Oui, moi, le premier de ces pays, ça aurait été la France. Parce que Diallo Telli avait été fonctionnaire français, fonctionnaire de la France d'outre-mer,
magistrat. Mais est-ce que vous n'avez pas reçu, vous, ambassadeur de France, ou auprès de vous, ce qui constituait peut-être le corps militaire et autres, des instructions, des recommandations pour pouvoir le placer à la place de Sékou Touré à un moment donné?
Pas la moindre, non. J'ai même, comme il me disait qu'il était inquiet, je me posais la question et je lui ai dit, pas aussi brutalement, parce que je n'imaginais même pas qu'il serait arrêté aussi vite, mais enfin, je lui ai dit que si un jour il voulait se aller dans un endroit où il pourrait se sentir rassuré, l'ambassade de France serait à sa disposition.
J'aurais probablement... Vous ne le pensiez pas ?
Je le pensais et je l'aurais fait, tout en sachant que ça risquait de compromettre sérieusement mes relations avec Sékou Touré, du coup, entre Paris et Conakry. Mais j'avais tellement de sympathie pour Diallo Telli que je l'aurais fait, en espérant ensuite arriver à le faire évacuer, ou je ne sais pas comment. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais reçu la moindre... J'avais au contraire...
Pas même vos collaborateurs, qui étaient peut-être des services de renseignement, oui. Qui étaient peut-être des services de sécurité.
Il y en avait un que je connaissais bien et que je contrôlais soigneusement. Il y en a qui venaient, par exemple, il y a un bâtiment de la Marine nationale qui est venu pour un premier voyage, une escale de courtoisie au port de Conakry, et je savais qu'à bord, il y avait des officiers du deuxième bureau. Et je les ai pris à part, j'aurais dit, premièrement, faites pas de conneries, dans Conakry, tenez-vous bien, on organise une soirée dansante, des ministres et autres, et peut-être même le président vont vous recevoir, etc., etc.
Quoi qu'il en soit, les aveux suggérés et soutirés à Diallo Telli vont permettre au président Sékou Touré de justifier le terrible complot ourdi par toute une ethnie. Et ces discours contre toute une partie de la population guinéenne, les Peuls, qui représentent 40%, vont être d'une rare violence, presque un appel au massacre. Petit extrait de son discours prononcé à la radio guinéenne pendant cette période au peuple.
L'on a inculqué aux Peuls l'idée qu'il n'est pas noir, et certains vont jusqu'à la recherche de leurs origines en Somalie, en Éthiopie ou ailleurs, et refusent de vivre leur temps, leur espace, et de comprendre leur peuple. Cet esprit raciste a eu une influence néfaste sur beaucoup d'intellectuels. Mais quelle en était la réalité ? C'est que, intellectuels qu'ils étaient, ils n'étaient pas avec des masses populaires, lesquelles étaient abandonnées à elles-mêmes. Ils cherchaient plutôt de manière opportuniste à vivre en bon terme avec les chefs de village et de canton, avec le régime colonial, et certains d'entre eux n'ont obtenu de grands diplômes qu'au prix de leur obséquiosité. Quand un homme, comme le faisait le raciste intellectuel Peul, se vante d'être intelligent, c'est qu'il est tout simplement bête. nous utiliserons la force brutale contre ceux qui ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Ils sauront qu'on n'a jamais eu peur d'eux, qu'on les respectait, mais que, comme ils n'aiment pas le respect, nous leur présenterons ce qu'ils aiment, la force brutale. Le peuple suit l'attitude raciste de certains cadres qui, une fois à la tête d'une société, d'une entreprise, d'un service, ne recrutent que les seuls peuls. Et quand les cadres peuls sont nombreux dans un service, c'est tout de suite la paralysie totale. Nous le disons en vous donnant un exemple que vous connaissez bien parce que vous le vivez. Si nous, nous nous vantons d'avoir formé beaucoup d'ingénieurs des travaux publics, prenez la liste et vous verrez que ce sont nos frères peuls qui sont les plus nombreux. Mais regardez à Conakry même, quel est l'état des routes? Les choses sont claires. Comme nous l'avons dit, de longues années durant, la Guinée a subi la dictature raciste peul dans l'attribution de bourses d'enseignement supérieur à l'extérieur. Nous vous posons la question. Puisque dans plusieurs familles peul, le pays a attribué des bourses à un, deux, trois, voire quatre de leurs enfants qui, au terme de leurs études, ont trahi la nation pour se réfugier ailleurs et combattre le régime guinéen. Devons-nous continuer à leur accorder des bourses? Cependant, pour l'extérieur, il ne sera plus attribué de bourses aux peuls aussi longtemps que ceux restés à l'extérieur n'auront pas rejoint la patrie. Alors, nous proclamons sans détour « racisme égale racisme ». Pour l'illustrer, nous vous rappelons ce proverbe africain qui dit « Lorsque vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, piétinez-le pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. » La trahison, encore une fois, ne paie pas. Et ceux qui avaient trahi Alpha Yaya, Gamissou Diallo, ceux qui avaient trahi Bokar Birobari, ne peuvent pas avoir des enfants ayant une conduite de dignité si ceux-ci ne se confient pas au PDG, l'organisation révolutionnaire capable d'extirper de leur tête jusqu'à la racine la félonie de leur père, car il y a une continuité historique qui marque d'une tare et d'un sceau indélébile la personne et la vie des individus.
Monsieur André Lévin, vous qui l'avez côtoyé de très très près, d'abord pendant les négociations qui ont abouti au rétablissement des relations avec Paris, ensuite en tant qu'ambassadeur de France en Guinée, vous le rencontriez régulièrement. Pourquoi détestait-il tant les peuls?
Il y a une histoire que l'on m'a racontée, dont je ne sais pas si elle est vraie. Un marabout avait dit à Sékou Touré, quand il était relativement jeune, ton pouvoir s'arrêtera lorsque le Fouta bougera. Et évidemment, maintenant, avec le recul, on se rend compte que lorsque le Fouta a bougé, ce sont les tremblements de terre très inattendus qu'il y a eu à la fin de 1983 et au début de 1984. Mais jusque-là, il est tout à fait possible que Sékou Touré ait pris ça pour le Fouta, c'est-à-dire les habitants du Fouta, et qu'il en ait conçu une espèce de haine ou de méfiance, en tout cas vis-à-vis des peuls en général.
En ce mois de juillet 1976, la violence des propos est à peu près à la mesure de ce qui attend les cadres peuls. Et Diallo Télé est leur chef de file. Les moments qui vont suivre vont être particulièrement difficiles pour eux. Désormais, la guerre est déclarée. Nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série consacrée à Diallo Télé. Donc, juste après le journal.
Mori manyinde, komori manyinde, ne komori manyi, mori keni jokala manyinde, zangura.
Souhaitez réécouter Archives d'Afrique, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.